Christian Page, il est là avec ses mythes et ses complots et ses conspirations de toutes sortes. Bonjour, mon cher.
Salut, Bernard.
Bon, on parle guérisseur, arnaqueur.
Arnaqueur. Hein? Qui voudrait faire l'association guérisseur et arnaqueur?
Ben,
faut vraiment que t'aies l'esprit tordu pour commencer comme ça.
J'aurais dû dire guérisseur ou arnaqueur.
Oh, oh.
Écoute, c'est mieux, ça?
Oui, c'est ça. Écoute, quand on s'est laissé la semaine dernière, tu me dis, oui, est-ce que les gens pensent, par exemple, qu'ils ont des dons? Là, tu m'as évoqué les gens, effectivement, on a tous un oncle, une tante, où on connaît tous quelqu'un qui dit, moi, j'arrête le sang, j'arrête le mal dedans, ce genre de truc-là. Une espèce de tradition familiale où ça se transmet de génération en génération.
Oui.
Et écoute, moi, j'ai connu des femmes qui avaient des touchés thérapeutiques fantastiques qui te guérissaient de longues nuits, mais...
Okay.
J'ai eu un oncle aussi qui guérissait du rhume, mais ça prenait 7 jours avant que ses pouvoirs fassent effet. Cela étant dit,
oui.
Parce que c'est un sujet qui est assez loufoque, hein, parce que toutes ces histoires de traditions comme ça, bon, ça, bien sûr, tout ça a attiré la communauté scientifique,
et
les parapsychologues, et bon, cette idée de guérir, bon, faire que le sang va s'arrêter, enlever le mal dedans, ou ci ou ça, inutile de dire que fait dans des conditions rigoureuses, ça a pas donné beaucoup de résultats.
Mais j'ai plein de témoignages, moi, mon grand-père ne guérissait pas, mais il stoppait les douleurs suite aux brûlures et aux piqûres de guêpes. Je l'ai expérimenté, me dit un auditeur.
Mm-hmm. Moi, j'avais un oncle ozonol, puis ça marchait aussi. Mais cela étant dit, c'est parce qu'on a le témoignage des gens qui disent, voilà, j'ai essayé ça. Mais on peut se demander dans quelle mesure aussi il n'y a pas une espèce de part, une espèce de placebo. Hein? On se dit, je me suis brûlé, ma tante Urtibise dit qu'elle guérit le feu, donc on l'appelle au téléphone, et là, tout d'un coup, on a l'impression de sentir une espèce de soulagement ou un bienfait. Mais malheureusement, comme je te dis, dans des conditions rigoureuses de laboratoire, ces prétentions de dons qui sont transmis de manière familial, tout ça, ça n'a pas donné de résultat. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il faut être plus rigoureux. Il y a des recherches qui ont été menées quand même, des recherches très sérieuses.
Ouais.
Par exemple, ici à l'Université McGill, à la fin des années 50, début des années 60, là, on entre un peu dans un détail technique, mais il y a quand même un scientifique, un oncologue, qui s'appelait Bernard Grade. Il avait sélectionné, par exemple, 48 souris sur lesquelles il a fait des prélèvements, des espèces de biopsies. Et donc, tu comprends qu'au tout début de l'expérience, les 48 souris présentaient toutes le même type de blessure. Et là, il a séparé ces 48 souris en 3 groupes de 16. Il y avait un groupe qui était laissé dans leur cage sans rien.
Oui.
Un autre groupe de 16 qui était manipulé 2 fois par jour par des laborantins. Ils restaient dans leur cage. Là. Les laborantins prenaient la cage, tournaient leurs mains autour de la cage pour voir si c'était pas simplement une question de chaleur ou quelque chose de manipulation, peu importe. Donc, on avait un groupe de 16 souris qui étaient manipulées par des laborantins et un autre groupe de 16 souris qui, elles, toujours en demeurant dans leur cage, étaient quand même manipulées 2 fois par jour, 15 minutes durant, par un soi-disant guérisseur, un type qui était très connu à Montréal, qui s'appelait à l'époque, il est décédé depuis, il s'appelait Oscar Estebani. Et après 2 semaines, on a constaté que les souris qui étaient dans les cages, qui avaient été manipulées par Oscar Estebani, connaissait un taux de guérison plus rapide que les autres souris.
Oh, oh, oh! Attention!
Donc là, on a comme un indice. Le même type d'expérience, assez semblable, avec une façon, une technique de manipulation différente quand même, mais en 1992, des chercheurs à Los Angeles, à l'Université de la Californie, ont fait une recherche en utilisant des salamandres. Et tu sais que les salamandres ont la capacité, si on leur coupe un membre, je sais que ça, on se dit, tabarnouche, les défenseurs de la Ligue des droits des animaux vont nous accuser, là. On a pris des salamandres et elles ont l'habilité de, si on leur coupe un doigt, par exemple, le doigt va repousser. Donc, on a pris des salamandres comme ça, puis on les a coupés des doigts. Et un certain nombre de salamandres étaient laissés dans leur cage, dans leur vivarium. D'autres étaient manipulés par des laborantins, d'autres par un soi-disant ou soi-disante guérisseuse. Et ça a fonctionné. Les salamandres qui avaient eu un membre amputé, qui avaient été manipulés par des guérisseurs ou guérisseuses, ont connu une repousse plus rapide que ben, les autres.
Mais là, Christian...
Donc, oui, je sais. Donc, mais pour l'instant, ces recherches demeurent trop fragmentaires pour qu'on puisse tirer une conclusion. Donc, tout ça nous dit...
Oui, mais ben justement, dit que, ça dit quoi? Ça dit que...
Ça me dit que je vais m'en remettre... je vais m'en remettre au toucher thérapeutique de Denise, qui lui était très efficace.
OK. Mais là, regarde, mais bon, là, j'ai quelqu'un qui m'écrit, oui. Là. Il y a 30 ans, un ramancheur de Tracy, aujourd'hui décédé, m'a oui. replacé la vertèbre du cou C3 suite à un accident de moto, j'étais presque paralysé. Les chirurgiens de Sacré-Cœur ne voulaient pas m'opérer. Aucun chiro ne voulait me toucher, même pas Denise. Ce ramancheur m'a redonné ma vie en me replaçant cette vertèbre cervicale. J'avoue que c'était très risqué, mais je n'avais pas d'autre solution.
Oui, mais tu vois là, Bernard, on tombe dans une autre catégorie. On est dans la catégorie du ramancheur. Et oui. tu sais que les ramancheurs, ce sont les prédécesseurs de nos chiropraticiens. Donc, il y a longtemps, la chiropratie, aujourd'hui, elle est reconnue en médecine. Mais il y a 50-60 ans, c'était considéré comme des espèces de charlatans. Là.
On peut-tu dire les ancêtres des ostéopathes aussi? On peut-tu dire ça?
Oui, mais tu sais que le ramancheur, hein, c'est ce qui a donné naissance au Québec au bonhomme 7 heures.
Pardon?
Ben oui, en Estrie, je te raconte ça rapidement. En Estrie, on avait beaucoup d'anglophones qui venaient des États-Unis après la guerre de sécession. Donc, il y avait une communauté très anglophone. Et quand on passait près de la maison du ramancheur du village, parce qu'il y en avait dans tous les villages, quand on passait aux côtés de la maison du ramancheur, souvent on entendait par la fenêtre « Aïe, aïe! » Tu sais... Fait que les parents, là, on faisait peur aux enfants avec ça. On disait aux enfants, si t'es pas gentil, là, on va t'envoyer chez le bone setter. Hein, le ramancheur, le bone setter en anglais.
Et ah, le bone setter, comme celui qui arrange les os.
Voilà, c'est ça. Donc, le bone setter, dans le langage populaire, a été déformé et le bone setter est devenu le bonhomme setter.
Ah, oh ben, j'ai mon maudit voyage.
Allez, écoute, hein, on en apprend-tu?
Le bone setter.
Ouais, c'est devenu le bonhomme 7 heures. Parce que, évidemment, quand on passait près de la maison, on entendait souvent des gens hurler. Et là, ben,
parce que lui, il faisait craquer les os, donc c'était un bone setter.
Voilà, tu t'imagines, si t'as une épaule de déboîté, ben, tu sais, si tu la replaces, tu vas lâcher un petit cri de mort. Fait que là, quand les parents passaient près de la maison, évidemment, on racontait toutes sortes d'histoires horribles aux enfants. On faisait croire que le bone setter, faisait toutes sortes d'expériences, dévorait les enfants. Donc, on créait une espèce de climat comme ça. Et là, on dit aux enfants, c'était pas gentil, on t'envoie chez le bone setter. Et là, tout d'un coup, le bone setter est devenu notre bonhomme setter.
Ah ben, c'est très intéressant, tu vois. Ouais,
on voit bien ici que le bone setter, le ramancheur, est un petit peu, évidemment, là, de manière très artisanale, mais c'est un peu le travail que font aujourd'hui les chiropraticiens. Donc, de bien connaître la position des os et parfois une manipulation, comme notre auditeur mentionne, ben, une manipulation au niveau des os, du cou, tout ça peut créer des bienfaits qui,
il faut faire la part des choses entre les guérisseurs puis les ramancheurs. C'est pas là. Je comprends. Il y a une différence, là. Faut faire attention.
Il faut faire attention. Puis surtout, tu sais, on comprend que devant la douleur ou des maladies chroniques, hein, des gens seront peut-être un peu tentés d'aller vers des thérapies alternatives.
Oui.
Donc, il faut toujours être très, très prudent avec ça. Bon. Mais c'est quand même un sujet un peu léger. Oui, il y a de la recherche sérieuse qui se fait dans ce domaine-là, mais de façon populaire, il y a une espèce de folklore autour des ramancheurs, les gens qui guérissent du mal de dents et tout le reste.
Mais je veux te dire, moi, j'ai rencontré des gens, là, Christian, là, oui. Ils y croyaient tellement. Là, ils croyaient au don. Le don d'arrêter le sang, là, c'est Vous savez le nombre de personnes, moi, que j'ai rencontrées, là, qui étaient convaincues, mettons, leur tante, leur mère. Dans certains cas, elles avaient hérité du don, puis elles l'avaient déjà essayé, puis ça avait fonctionné. Elles étaient capables d'arrêter le sang. Puis elles y croyaient, là, dur comme fer. Elles étaient tellement convaincues qu'elles étaient quasiment convaincantes.
Mais tu sais, Bernard, la croyance, elle est légitime. Hein? Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, puis c'est correct, ça leur fait du bien. Moi, la seule chose que je te dis, c'est quand on prend ce discours-là puis on l'amène dans un laboratoire, dans des conditions rigoureuses, ça ne fonctionne pas. Mais bon, le miracle, la guérison, écoute, on connaît tous les miracles du frère André et tout le reste. Hein? Il y a tout un processus là au niveau de la religion où on va reconnaître des miracles et des guérisons. Mmh. Et contrairement à ce que les gens peuvent croire, le comité miracle du Vatican, donc celui qui va reconnaître que selon... telle ou telle prêtre ou tel personnage, figure de religion, est intervenu en faisant un miracle, hein, que ce soit le Padre Pio, le Frère André et compagnie, parce que ça fait partie du processus de canonisation puis de béatification. Et ce comité miracle-là, on aurait peut-être tendance à croire que oui, c'est la religion, c'est l'Église, c'est léger, ils croient n'importe quoi. Au contraire, le comité miracle du Vatican, il est excessivement rigoureux, il est composé par des médecins professionnels, et ce n'est qu'à travers une très nombreuse quantité de filtres avant l'histoire doit passer, être réévaluée avant que l'Église détermine. Puis ce comité miracle ne dit jamais « c'est un miracle ». Comité miracle, dans le fond, lui, ce qu'il dit au niveau de son enquête, c'est on n'a pas d'explication scientifique. Donc, à partir du moment où on n'a pas d'explication scientifique, c'est le rôle de l'Église ensuite de dire, bon, ben, c'est un miracle, ça doit être Dieu qui est intervenu. Mais, ultimement, la croyance, elle est légitime. Moi aussi, j'ai connu des gens qui avaient ce discours-là, hein. Je guéris le sang, ou ma mère guérissait le sang. Puis bon, il y avait également toute cette conviction-là. Mais même si elle est légitime, la science, elle dit un peu autrement par rapport à ça.
Très intéressant, Christian Page. Content de te retrouver. On se reparle jeudi prochain.
Absolument.
Salut, salut.
Ça marche.
Ciao, c'est le point de presse de François Legault dans un instant que Patrick Lagacé va vous présenter dans son émission. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux aujourd'hui dans le dossier de la COVID. Donc, point de presse dans un instant à ne pas manquer. Restez à l'écoute. À demain, tout le monde.